et tous ceux qui vous entourent de votre présence à Agora et d'avoir décidé de remettre ce prix à l'occasion d'Agora. C'est un grand plaisir que vous nous faites et un grand honneur. Je sais que ce prix, depuis 1994, est une véritable référence en matière d'ouvrages sur l'architecture. Un certain nombre d'entre vous ont participé au jury. J'imagine que c'est compliqué. J'avoue que c'est la première fois que ce prix est remis ici à Bordeaux, je crois. C'est la première fois, grâce à Martin Chesneau, qui fait partie du jury depuis quelques années, m'a-t-on dit, voilà, et qui a suggéré que vous veniez ici. Au-delà de ce prix, je vais vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez exactement pourquoi ce prix, depuis quand il existe et quels sont les objectifs de ce prix. J'espère qu'il s'inscrit en tout cas parfaitement dans cette biennale d'architecture, qui est évidemment une biennale qui parle d'architecture, d'urbanisme et de design, mais qui est assez aussi pluridisciplinaire. Et c'est vrai que l'écriture, les photos, l'édition font partie de cette diffusion de l'architecture extrêmement importante auprès de nos concitoyens. Donc, merci encore et je vous passe la parole, monsieur le maire.
Merci bien, madame la maire adjointe. Je vous remercie de nous accueillir, ainsi que madame la déléguée générale d'Agora, qui nous accueille à l'occasion de cette biennale. Donc, un grand merci pour nous accueillir aujourd'hui. Et je dirais que c'est la deuxième fois que nous venons à Bordeaux et que vous nous recevez. Et vous nous permettez, dans le cadre d'Agora 2017, de remettre le grand prix du livre d'architecture de la ville de Briey. Certaines et certains se posent peut-être la question de comment nous nous sommes rencontrés. La métropole bordelaise et ses 800 000 habitants et la ville de Briey, qui jusqu'à la fin de l'année 2016 comptait 5 000 habitants et qui est passée le 1er janvier 2017 à 8 600 habitants, car nous venons de constituer une commune nouvelle, la commune nouvelle du Val de Briey. Ce qui n'est ruiné, c'est l'intérêt porté par les élus au patrimoine et à l'architecture, ainsi que les efforts fournis pour y sensibiliser nos populations et chacun à sa mesure de faire saisir l'importance du paysage dans le contexte urbain. Nous n'avons pas le riche patrimoine architectural de Bordeaux, mais à côté d'un aspect médiéval d'une ville bâtie au départ sur un promontoire, il y a une touche de modernité qui a été apportée par Le Corbusier, qui dans les années 1960 a accepté, sollicité par Philippe Serre et Eugène Claudius Petit, de construire à Briey une unité d'habitation. Le Corbusier avait trouvé à Briey le site et le paysage dans lequel ses principes architecturaux pouvaient s'inscrire. Nous avons donc à Briey une cité radieuse. Et dernièrement, le journal Le Monde titrait dans un cahier spécial du 15 juin 2017, en première page, Bordeaux, cité radieuse. Nous avons donc quelques accointances. Mais la cité briotine a failli sombrer. Lors de la crise de la sidérurgie lorraine, le village vertical cher au Corbu s'est vidé de ses habitants et le bâtiment finit par être muré. C'est alors que Guy Vattier, maire de Briey en 1987, va sauver la cité et la réhabiliter. Et va alors être lancée l'idée de créer un événement pour redonner vie et sens à la cité. Ce sera après la création en 1991 d'une association La Première Rue, la mise en place d'une manifestation intitulée Impression d'architecture, au cours de laquelle allait décerner le Grand Prix du livre d'architecture. La première manifestation eut lieu en 1994 et nous en sommes aujourd'hui à la 12e. Les derniers thèmes retenus étaient les suivants : l'architecture d'urgence, la rue, l'architecture vernaculaire. Cette année, si à Bordeaux vous vous intéressez sur le fait de savoir si l'on peut encore parler de paysage dans les métropoles modernes, nous nous poserons dans quelques jours la question de savoir comment l'architecture peut-elle être une richesse pour les territoires ruraux. Est-ce différent? Est-ce ressemblant? Je crois surtout que ce qui nous réunit, c'est une même passion et un même désir de partage. et je retiendrai juste deux phrases de membres éminents d'Agora 2017 et qui font que la différence de taille entre nos villes a peut-être peu d'importance. Je citerai d'abord celle du commissaire général Basmes, « Le désir n'a pas d'échelle », et celle de l'architecte Christian de Potzenpark, « Une ville est un paysage ». Mais laissons maintenant la parole aux membres du jury du Grand Prix du Livre d'Architecture, que je voudrais remercier pour leur avertissement plein et généreux dans leur tâche délicate et prenante. Merci donc à Christian Boer, architecte et président du Centre d'architecture du Grand-Duché du Luxembourg, à Martin Chenot, architecte et actuellement directeur de l'Institut culturel français à Casablanca, à Michel Huette, docteur en droit, avocat à la Cour, membre de l'Académie d'architecture, à Madame Michèle Larue-Charlus, directrice générale de l'aménagement de Bordeaux Métropole et déléguée générale d'Agora. Et avant qu'ils nous présentent le palmarès, résultat de leurs travaux, je voudrais citer un passage de Le Corbusier qui, à mes yeux, correspond à ce qui nous arrive au cours de ces rencontres. Rencontre entre nos villes, rencontre entre les participants à la Biennale Agora, rencontre avec les membres du jury. Rencontre qui est maintenant, je cite Le Corbusier, propos tiré de son poème « L'angle droit », ces rencontres sont jeu du destin et du hasard, à la croisée aussi accidentelle qu'inexorable, de chemins particuliers subitement marqués d'une étonnante félicité. Et la félicité se définit classiquement comme un bonheur sans mesure, généralement calme et durable. Souhaitons aux unes, aux uns et aux autres que nos rencontres continuent à s'inscrire dans le calme et la durée. Je laisse la parole aux membres du jury.
Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'abord de nous avoir confié cette tâche en tant que membre du jury et de nous faire confiance pour ma part depuis 2010 pour animer ce prix du livre d'architecture. Alors peut-être avant d'arriver au palmarès, vous dire quelques mots sur ce prix. Évidemment, quand nous avons été sollicités pour participer à ce jury, on se pose la question de que doit exprimer un prix d'architecture depuis un prix du livre d'architecture depuis une petite ville, ville de Briey, qui a à la fois cet héritage et ce lien avec l'architecture qui est évident, mais un contexte et des questions quotidiennes qui sont d'une autre nature. Nous avions souhaité, du coup, avec les membres du jury, positionner progressivement ce prix de façon singulière pour qu'il ne soit pas un prix d'une académie, on n'est évidemment pas dans cette logique-là, mais bien un prix qui soit lié à la quête très singulière que mène la ville de Briey, aujourd'hui le Val de Briey, qui est une quête d'un chemin pour se développer avec un héritage fort de l'architecture, une dynamique de territoire qui est variable avec cette crise qui a été présente, avec cette relation au rural qui est très forte. Et donc, finalement, comment donner un prix qui parle de ces alternatives territoriales qui sont celles que l'on retrouve dans plein de situations en France et à l'étranger. Et donc, nous avons dès le départ choisi de dire que ce prix était un prix qui allait identifier des ouvrages qui sont un peu des ouvrages de recherche dans des thèmes d'actualité, qui sont un peu sur des voies nouvelles. Et en même temps, on souhaitait que ce prix soit un prix populaire. Un prix populaire, c'est-à-dire un prix accessible, un prix qui identifie des livres pour lesquels il y a une forme d'évidence à se dire que ce livre-là, on a envie de le mettre entre toutes les mains. Voilà. Alors ça a été le positionnement que nous avions choisi pour ce prix et que nous essayons de tenir depuis maintenant. C'est la quatrième édition à laquelle je participe avec Christian Boer et Michel Huette. Et nous avons essayé de garder ce fil rouge. Alors chaque année, c'est un processus qui est un peu similaire. nous avons à la fois une approche un peu systématique, enfin chaque année c'est tous les deux ans, une approche systématique, c'est-à-dire qu'on prend la liste des 200, 300 ou 400 ouvrages qui sont sortis depuis deux ans sur l'architecture en se basant sur les bases de données des bibliothèques et des médiathèques, notamment des écoles d'architecture. Et je remercie l'équipe de l'école de Bordeaux. Donc approche systématique en se disant qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on regarde. Bien. Voilà. Et puis une approche totalement intuitive, puisqu'il y a des livres que nous découvrons par hasard en fréquentant les librairies notamment, et parce qu'on en reçoit aussi. Et donc c'est cette double approche, à la fois un peu systématique et intuitive, qui nous amène à partir donc de 300 ouvrages à peu près, et de progressivement nous concentrer sur un certain nombre d'ouvrages, et souvent on tourne à la fin autour de 10-15 ouvrages, qui nous semble être assez révélateur de cette période des deux années et du panorama des 200 à 300 ouvrages que nous avons consultés. Parmi ces ouvrages, ils sont pour nous très importants parce qu'on distingue souvent des tendances ou des choses un peu nouvelles qui apparaissent. Alors on avait vu l'année dernière, notamment, enfin il y a deux ans, des choses qui venaient de l'international. On avait vu des ouvrages de recherche qui commençaient à aller plutôt vers le grand public. Et les années précédentes, nous avions primé, par exemple en 2011, nous avions primé Learning from Vernacular, le livre de Pierre Frey qui avait donné lieu à une très belle exposition qui avait été présentée notamment à la base sous-marine ici. Deux ans après, nous avions primé le livre de Nicolas Soulier, Reconquérir les rues, qui parlait de la façon spontanée ou organisée d'ailleurs d'investissement des habitants sur l'espace public. Il y a deux ans, nous avions primé un livre qui avait un lien avec Bordeaux, et c'est pour ça que nous étions venus ici aussi. C'était le livre Le Petit Paris de l'agence de Degré, qui était une espèce de pamphlet très humoristique et en même temps un traité d'urbanisme. Comme je disais, c'est le seul traité d'urbanisme que j'ai réussi à lire l'été sur la plage en éclatant de rire. C'est assez rare pour un traité d'urbanisme. Et puis, voilà. Et donc, chaque fois, le Grand Prix est accompagné ou adossé à une sélection qui donne un peu la tendance. Alors, ce qu'on vous propose là, c'est de vous présenter cette sélection et puis deux prix spéciaux, d'une certaine façon, avant de vous présenter le prix définitif. Vous dire que dans cette sélection, on essaye aussi d'identifier des ouvrages qui nous paraissent intéressants à garder en tête. Et donc, nous avons fait deux sélections. Je ne vais pas vous les lister parce qu'il y a 4 ou 5 ouvrages à chaque fois. Mais une sélection, notamment, ce qui nous a apparu intéressant, là, c'est des ouvrages accessibles à tout public, c'est-à-dire à des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'architecture ou à l'urbanisme. On a fait une petite sélection sur ce thème-là. Donc, qui vise des publics un peu différents. Et puis, une sélection d'ouvrages sur la thématique de la reconversion ou de la capacité de l'architecture à s'adapter. Voilà. Donc, on a ces deux sélections qui seront disponibles sur le site web du prix d'architecture. Mais je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de notre sélection finale. Michel ?
Merci. Mesdames, élus, acteurs, éditeurs, auteurs, architectes, paysagistes, urbanistes, enfin tous les gens de l'architecture et de l'urbain, c'est un grand plaisir que de faire partie d'un jury comme celui que nous animons, notamment tous les trois ici présents, depuis quelques années, au fin d'avoir pas seulement un grand prix, mais aussi, cette année, des prix spéciaux. Et le prix spécial que je tiens à vous présenter, qui est ici, c'est celui dont l'auteur-éditeur est Alexandre Chemetov et qui a pour titre Michel Courajoux Portrait. Comme la corde brutalement rompue d'une mandoline russe, la disparition de Michel Courajoux ricocha sur les os des gens du paysage, perpétuant la conversation un instant interrompue du maître des signes qui traversait les quatre saisons. immédiatement son ami Alexandre Chemetov, qui avait créé avec Michel Corajou une association abritée à l'école normale supérieure de Versailles pour constituer une mémoire vivante de son œuvre avec l'aide de Felita Khalifa, Cédric Rossini pour la mise en page, très important, Arnaud Dubeuil-Frenet, bien connu pour la photographie et la direction artistique, Malika Anaïssi et Antoine Leroux pour la relecture, fonction fondamentale, mobilisa tous les membres de l'association pour l'aider à construire cet ouvrage unique en son genre, Michel Corajou, portrait. Alors, c'est ce livre auquel a été décernée la mention spéciale du jury. Et en ces temps difficiles, comme on vous l'a dit, comme Martin vous l'a dit tout à l'heure, où les éditeurs déclinent de plus en plus, hélas, les ouvrages dédiés à l'architecture, le jury a voulu remarquer le désintéressement financier d'un architecte éditeur de son propre livre. Les pages de ce livre sont un assemblage de contributions personnelles. Chacune d'entre elles est une reproduction de documents, comme autant de facsimilés des originaux. Il se déplie comme un long ruban où se mêlent la vie professionnelle et la vie personnelle de Michel Corajou. Son œuvre en perpétuelle gestation se reflète dans le regard de tous ceux qui ont vécu son incroyable passion pour la vie ou qui ont accepté, ou qui ont plutôt capté les étincelles multiformes de ses idées, traçant les pistes d'un humanisme authentique. Comme le souligne dans cet ouvrage Franco Zagheri, Michel Corajou explore les limites et les dépasse. Cet ouvrage révèle l'imbrication d'un homme fidèle à sa famille, amoureux de sa femme Claire, présente à chaque ligne, de ses enfants et petits-enfants, indépendants de tous les pouvoirs, visionnaire, annonçant la métamorphose des métiers du paysage, de l'architecture et de l'urbain. Alexandre Chemetov introduit son ouvrage en écrivant que Michel Corajou était beau. Il prouve que son œuvre est belle. Nous avons éprouvé le jury, que c'était vraiment un beau livre. Merci.
Merci Michel.
Ah, j'ai oublié de faire l'effet de manche. Voilà, j'aurais dû terminer. C'est un ruban, on va le replier. Mais une des originalités de la beauté de cet ouvrage. Voilà.
Merci. Merci Michel. Voilà. Parler après un avocat en tant qu'architecte, ça c'est quand même assez difficile. Bon, il y a quand même encore un prix très spécial dans notre choix, c'est Paris Haussmann, A Model's Relevance. On dira encore un livre sur Haussmann, il y en a déjà tant. Mais celui-ci, c'est l'ultime. Bien sûr, nous ne sommes pas en présence d'un livre sur le baron Haussmann, son histoire, sa métamorphose de Paris. Divisé en trois parties, le livre d'Haussmann, Paris, coédité par le pavillon de l'Arsenal et Park Books, est bien plus que cela. Issu de l'exposition du même nom au pavillon de l'Arsenal, début en 2017 à Paris, il a pour ambition, et ce, à travers une analyse approfondie et critique, de mettre le modèle haussmannien en face des modèles d'urbanisme contemporain. Sous la direction d'Umberto Napolitano et Benoît Jalon, et Franck Boutet. Un nombre impressionnant de collaborateurs ont façonné un ouvrage qui fera histoire. La première partie, Haussmann Modelville, laisse d'emblée percevoir une ambition de tester si sa morphologie peut servir de modèle plus universel. En résumé, à l'issue du premier chapitre, Paris, ville dense, ville résiliente, ville connectée, ville visible, ville sobre et de partage, ville intense et attractive, ville mixte, s'ensuit la question Paris, ville modèle. La deuxième partie est aussi la plus volumineuse. Analyse typomorphologie se concentre sur les traces, les espaces, la typologie des espaces publics, la hiérarchisation du maillage, rues, places, îlots, immeubles, ornements sont analysés, juxtaposés, catalogués avec acribie. La troisième partie, analyse de l'efficience, met le modèle haussmannien en face d'autres métropoles du monde, tant au niveau des tissus urbains que des formes urbaines jusqu'aux performances thermiques. La rigueur et la recherche et des analyses se reflètent dans le graphisme et des typographies très conséquentes sur l'ensemble du livre, dont la conception est de l'agence Undoredo. Les photos par Cyril Weiner s'y intègrent très naturellement. Subtilement, le papier évolue en fonction des chapitres. Dessins, schémas, diagrammes, photos sont présentés avec une lisibilité qui est propre au message à transmettre. Tout simplement, nous trouvons ce livre ahurissant dans son homogénéité et par sa perfection. Il a l'étoffe de devenir une référence mondiale en tant que publication sur papier et en architecture. Merci. Ce livre n'est peut-être pas encore beaucoup dans les librairies, mais je préfère que tout le monde le voit comme il est. Et l'équipe de l'Arsenal qui est là, on pourrait peut-être... Voilà.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole aux commissaires qui vont vous dire deux mots sur l'ouvrage, je voudrais évidemment tout d'abord remercier la ville de Briey, remercier pour ce travail où depuis de nombreuses années, ce grand prix du livre d'architecture est un moment fort, un moment important pour soutenir, encourager et affirmer l'importance et le rôle du livre d'architecture, chose auquel en tout cas au Pavillon National et dans d'autres institutions on croit très fort et on continuera dans ce sens. Remercier évidemment la ville de Bordeaux, l'Agora, Madame la déléguée générale, d'accueillir ce prix ici. Je pense que c'est aussi plutôt une très belle idée pour aussi offrir une visibilité plus importante à cette question du livre. Remercier les membres du jury pour leur choix. On est très fiers, on est très touchés. Et puis également, évidemment, féliciter les commissaires, donc Umberto Napolitano, Benoît Jalon, Franck Boutet et toute son équipe pour le travail ahurissant, vous l'avez dit, incroyable, colossal qu'ils ont fait de répertorier, de dessiner, d'analyser ce modèle haussmannien et justement de permettre et d'offrir un nouveau regard, un regard très contemporain de la capacité de ce modèle à révéler beaucoup de choses par rapport à nos défis, à nos enjeux actuels. Et puis c'est en effet, comme vous l'avez dit, un ouvrage qu'on coédite avec Parbooks. C'était important pour nous, puisqu'on voulait cet ouvrage et l'exposition d'ailleurs également bilingue, toujours aussi dans une volonté de le partager avec le plus grand nom. Et puis on est très fiers d'être ici. On est aussi très fiers d'être à la Biennale d'architecture de Chicago, justement, où l'exposition Paris Haussmann, modèle d'une ville, et l'ouvrage sont actuellement présentés. Voilà, encore merci et je passe la parole donc à Benoît et à l'agence Franck Boutet.
Bonjour à tous. Un grand merci évidemment pour ce prix qui vraiment récompense une bonne année et demie de travail au sein de l'agence. Un grand merci évidemment au Pavillon de l'Arsenal qui nous ont accompagnés et qui nous ont entre guillemets maltraités pour aller justement à cet objet qui est finalement très 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 fort. C'est vrai que c'est un travail d'un an et demi au sein de l'agence qui était en même temps que la Biennale de Venise. En fait, on a préparé en même temps ce travail de Biennale et en même temps ce travail sur Haussmann. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que On a d'abord travaillé ce livre avant de faire l'exposition, en fait. L'exposition est sortie du livre, en fait. Donc, on a vraiment composé le catalogue avant tout. Et l'exposition, finalement, sont des extraits, finalement, de ce catalogue. Donc, évidemment, un grand merci à toute l'agence qui a vraiment travaillé sur ce projet. Un grand merci, évidemment, à Franck Boutet aussi, co-auteur et co-commissaire de cette exposition. Bon, juste pour terminer, je suis très heureux de recevoir ce prix ici à Bordeaux, en plus en présence de deux projets juste là, en fait, le projet de Bègle et le projet de Lormont, qu'on a réalisé en 2015. Voilà, un grand merci encore.
Merci. Maxime, du coup, moi, je représente l'agence Franck Boutet pour la partie bordelaise, que on s'installe à Bordeaux, donc avec Franck. Alors, je n'ai pas travaillé personnellement sur l'exposition ou cet ouvrage. Néanmoins, on a eu le plaisir de soutenir l'effort, on va dire, déjà. Et on a profité aussi de l'apport, parce que je pense que c'était aussi l'occasion de renouveler les méthodes, les outils et le regard qu'on peut porter, nous, tous les jours, sur les projets auxquels on est confrontés et sur les projets urbains et sur la ville de Paris. Voilà. Après, on sait aussi qu'on s'est aperçu en participant, parce que, bon, malgré tout, tout le monde l'a un peu... fait à l'agence, que voilà, Paris et sa morphologie partagent aussi une bonne partie d'héritage avec la ville de Bordeaux. Donc on aurait... Enfin voilà. Merci en tout cas encore à tous.
Alors j'ai le plaisir de conclure avec la présentation donc du Grand Prix, dont je vais tout de suite tirer le titre et vous montrer l'ouvrage. Ça s'appelle « Vers l'immédiate, étrangeté des formes ». Je vous indiquais tout à l'heure là, que notre démarche est à la fois systématique, donc un peu rationnelle, et puis intuitive, donc un peu irrationnelle. Et on sait qu'on arrive au Grand Prix quand il y a ce mélange-là, c'est-à-dire qu'à la fois on s'est dit tiens, c'est bon, il fait partie de la sélection, puis à un moment on touche le livre, et puis là il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de petite électricité, on a un petit frisson, puis on se dit tiens, mais j'ose pas le dire aux autres. Et puis au bout d'un moment on se le dit, voilà, on se le dit, puis on se dit ouais, mais enfin, d'accord, mais c'est celui-là qu'on a envie de. Ouais, bon, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de livres, de plus en plus, de livres qui viennent des agences, qui montrent leur travail. Alors, on connaît les books, les gens qui se font des monographies ou faire des monographies, mais émergent de plus en plus des ouvrages vraiment intéressants d'agences qui montrent leurs travaux de recherche d'une certaine façon ou qui essayent d'expliquer leur méthode de travail. Bon, c'est pas un book, c'est un livre qui a été donc réalisé par l'agence de Jean-Christophe Quinton, qui est là et que je remercie et que j'inviterai tout de suite après, qui est accompagné une exposition là aussi, qui est donc presque un catalogue d'exposition fait à la Galerie d'architecture à Paris, en autoproduction, on va le dire comme ça, donc une démarche volontaire de montrer sa recherche. Bon, il y a le titre. Déjà, le titre, on ne sait pas si c'est un roman, on ne sait pas si c'est un essai, si ça parle d'art contemporain. On sait... Bon, donc ce côté un peu surprenant. Il y a évidemment l'objet. Bon, l'objet, c'est à la fois imposant, curieux, intrigant. Et puis, évidemment, il y a le contenu. Et là, le contenu, j'aurais presque envie de vous laisser le découvrir, mais... Je vais dire quelques mots quand même. Il s'agit de parler d'une démarche qui est celle de ce qui se passe dans un atelier ou dans la tête d'un architecte. Donc ça parle du processus de projet. Ça en parle en commençant par des croquis de voyage. Et c'est ça aussi, c'est se construire une culture tranquillement avec des croquis de voyage, des croquis de ville. Ça parle de fiction. Il y a des petits projets, même des petits projets d'enfants. Ou de rêves qui sont présentés, des cabanes, des choses comme ça. Ça parle des croquis que l'on fait quand on prépare un projet. Et puis, ça parle des projets eux-mêmes, puisque certains de tes projets, Jean-Christophe, sont présentés dans cet ouvrage. Et l'ensemble est une espèce de petite merveille qu'on a envie de garder, juste pour le plaisir d'ouvrir des pages. Voilà, et de voir tout ça. Alors, Jean-Christophe, tu vas venir et tu vas venir peut-être dire un mot, mais j'aimerais dire aussi que ce travail-là, donc, est accompagné d'un texte de Jacques Lucan qui fait l'introduction et de contributions de Charles Rosenfeld et puis de Florent Schwartz, des textes de poésie notamment. C'est extrêmement poétique, cet ouvrage. Donc, c'est tout sauf un book d'agence. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce travail fait écho aussi à un nouvel ouvrage que Jean-Christophe Quinton et son équipe sortent en ce moment, qui est un livre pour enfants, qui s'appelle Orson Voyage, qui est absolument splendide aussi, d'une élégance rare et d'une simplicité absolue. Voilà, on a tout simplement été assez, non seulement charmés, mais complètement conquis par l'ensemble de ce travail. Donc Jean-Christophe, s'il te plaît, viens. Et Florent, puisque vous êtes deux représentants.
Très timide. J'ai préparé un petit mot pour ne pas être terrassé par l'émotion. Monsieur le maire, madame, messieurs les membres du jury, bon, je suis très touché par tous ces mots que vous avez prononcés. Je voudrais vous remercier. Vous avez choisi de mettre un peu de lumière sur un ouvrage qui est un ouvrage finalement à une échelle très artisanale. Et je voulais un instant faire finalement l'éloge de cette échelle. Beaucoup d'architectes travaillent à l'échelle artisanale. Je pense que c'est une très très belle échelle. C'est une très belle échelle parce qu'elle nous permet, cette échelle, d'avoir un lien très étroit, très intime avec l'architecture. Et à travers ce livre, à travers cet ouvrage, ce qu'on cherche évidemment à raconter, c'est essayer de définir les contours finalement de ce lien, essayer de trouver les moyens de raconter finalement une histoire d'intimité, une histoire d'engagement, une histoire relativement abstraite, mais qui peut trouver ses supports et une petite aventure comme ça qu'on cherche à partager. Alors, un livre, évidemment, ça ne se fait pas seul, et donc je voudrais remercier quelques personnes qui ont contribué. Martin, tu en as déjà parlé, mais je voudrais les renommer. Jacques Lucan nous a fait ce grand honneur d'écrire une très jolie préface sur les figures imaginaires. Charles Rosenfeld, qui est un jeune architecte qui travaille dans mon agence, a navigué pendant un an et demi dans un dédale de documents, d'images, de plans, de textes, de dessins qui ont été constitués pendant plus de 15 ans. Et il a trouvé un chemin, et on l'a trouvé ensemble, pour que ça devienne une narration, une petite aventure partageable avec d'autres. Et puis Florent Schwartz, mon compagnon, poète, qui a donné cette coloration qui, je crois, est très forte dans cet ouvrage, qui, pour moi, est quelque chose de très important, qui donner la place à d'autres que les architectes de parler de cette expérience immédiate d'architecture qui, moi, je pourrais très bien expliquer tous les dispositifs formels, constructifs, économiques, les aventures, les mésaventures, mais finalement, offrir un espace dans lequel se manifeste quelque chose d'autre qui est finalement une relation à l'architecture que tout le monde a, non discursive, non explicative, mais voilà, une sorte de vibration poétique dont on a besoin pour parler d'architecture. Alors, dans ce petit ouvrage, finalement, j'ai cherché à rendre explicite, à raconter l'histoire de ce qu'est une culture de projet. Comme vous savez, chaque architecte a la responsabilité de fonder sa culture propre de projet. Tous les architectes ont une culture générale, on sait tout ce qui est Le Corbusier. Encore mieux, grâce à vous, monsieur le maire, à votre équipe et à votre histoire. Mais chaque architecte, par rapport à cette culture générale, a la responsabilité de fonder sa culture propre, sa culture d'action, sa culture d'engagement. Et donc, cette culture de projet, eh bien, voilà, cet ouvrage cherche voilà, à la raconter, à l'expliciter. En ce qui me concerne, je cherche à réhabiliter la forme architecturale. Et je vous le dis en quelques mots là-dessus. Pas à toutes les formes, mais la forme architecturale. Cette forme, ces formes étranges, qui sont à la fois poétiques et rationnelles, qui sont à la fois libres et assujetties, qui sont à la fois culturelles et sociales, qui sont à la fois des formes de prospective et des formes économiques. Et donc, ces formes qui souvent soulagent la complexité du monde ou cherchent à le faire. Et ce qui m'intéresse, c'est pour raconter peut-être un peu le titre un peu énigmatique que tu évoquais tout à l'heure, c'est dire finalement que lorsqu'on se confronte à des questions compliquées, le monde qui est en crise, eh bien, si très librement on fait confiance dans l'architecture et qu'on se donne des moyens très ouverts pour affronter ces questions, eh bien, les formes les plus optimisées qui soulagent ces problèmes sont souvent des formes très étranges. Et souvent, ces formes étranges sont du coup une relation possible immédiate pour des gens qui n'ont pas l'habitude de l'architecture et qui leur offrent un terrain d'expérience, parce qu'il n'est pas discursif, parce qu'il n'est pas explicatif, offre une expérience immédiate d'architecture. Voilà, je voulais donc vous remercier et puis faire un petit clin d'œil à cet architecte du XXe siècle qui est pour moi une vraie lumière, qui est Louis Kahn, et qui disait... et je reprends ma casquette de directeur d'école d'architecture, qui disait on ne peut pas former les architectes sans à un moment donné leur rappeler qu'au moment où ils conçoivent, ils doivent impérativement toujours penser que tout projet doit être une offrande à l'architecture. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage est une petite contribution dans ce sens-là. Merci à vous.
On va vous féliciter une nouvelle fois et puis vous dire que le Grand Prix d'architecture, ça ne doit pas être une fin. Hein, et j'oserais dire que le succès est une réussite lorsqu'il est un point de départ. Donc je vous souhaite encore beaucoup de choses, surtout que vous êtes directeur de l'école d'architecture. Donc vous avez une lourde responsabilité sur ce qui deviendra un jour notre patrimoine. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, je voudrais quand même citer, il se cache dans le fond, notre cheville ouvrière du Grand Prix du Livre d'Architecture, Romain Zatarin, qui se cache, mais qui est toujours là pour que les choses se déroulent au mieux. Donc, merci à tous et à toutes. Et maintenant, je pense qu'on peut aller déjeuner ou boire à la santé des lauréats. Et que nous reverrons peut-être certains à Briey.